J'espère que vous avez passé une bonne semaine de rentrée. C'est pas trop dur de reprendre après les vacances. Mais bon, s'il y a de mauvaises vacances, c'est qu'il faut bien reprendre à un moment ou à un autre. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes bien ressourcés en tout cas durant ce temps de congé. Voilà, on a encore quelques personnes de passage parmi nous, mais soyez les bienvenus en tout cas. Je vous propose, sans plus tarder, d'ouvrir la parole de Dieu. Je vais commencer par une histoire. C'est au temps de la marine à voile, au temps où les bateaux n'avaient pas encore de moteur. À l'époque, si vous voyez des pirates, voilà, tout ça. Les bateaux, du coup, qui fonctionnaient avec l'aide, du coup, uniquement des voiles. Et à cette époque-là, les marins, ils redoutaient une zone bien précise dans l'océan Atlantique. C'est un endroit qui existe toujours. Et dans cet endroit-là, le vent tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vent. Il tombe complètement, parfois pendant des jours, parfois même pendant des semaines. Et on appelle, du coup, cet endroit-là le poteau noir. Quand le bateau du coup est piégé dessus, il est piégé pour un petit bout de temps. Et le bateau du coup reste immobile, les voiles qui pendent sous un soleil qui est écrasant, en plein soleil au milieu de l'océan Atlantique. Et l'eau douce du coup à l'époque était rationnée. Jusqu'à ce que, ben, des fois, il y en a même qui mouraient tellement le vent ne se levait pas. Et la nourriture pourrissait dans les cales et certains équipages sombraient même dans le désespoir, désespoir mental. À force d'attendre, du coup, un souffle qui ne vient pas. Et pourtant, le bateau, il y avait une coque qui était saine, le bateau était des fois neuf, les voiles étaient bien taillées, l'équipage compétent, expérimenté. Et il manquait qu'une seule chose. Une seule chose qu'on ne peut pas saisir ni voir, c'est le vent. Et sans lui, quelque part, tout le reste ne sert strictement à rien. Et je vous pose une question, est-ce que ce matin, dans cette rentrée-là qui démarre, est-ce que ta vie chrétienne, elle ressemble un petit peu parfois à un bateau au milieu du poteau noir? Tout est beau, tout est parfait, mais il n'y a aucun vent qui souffle. La coque est là, tu crois en Jésus, tu es baptisé, tu es assis dans cette salle ce matin comme beaucoup, depuis beaucoup de matins, tes voiles sont bien taillées, tu connais ta Bible. Tu sais comment on est censé prier, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais il n'y a rien qui avance. Il manque un souffle. Et un jour, Jésus va parler de cela, de ce souffle à un homme religieux d'ailleurs. Respecté, et qui va venir le voir de nuit, parce qu'il a peur de voir Jésus de journée, et Jésus va lui dire que le vent souffle où il veut, qu'on en entend le bruit, mais qu'on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et qu'il en va ainsi de celui qui est né de l'Esprit de Dieu, invisible dans sa nature et parfaitement par contre visible dans ses effets. Le vent, on le voit par les effets. Il y a eu une tornade il n'y a pas longtemps là, cet été, dans le sud. On voit les effets. Alors là, on le voyait là parce qu'il y avait une tornade. Et c'est exactement le sujet de ce matin. Nous avons vu pendant 2 ans, mes frères et sœurs, ici, là, un sujet, une grosse thématique qui est la sanctification. J'espère que vous avez retenu au moins quelque chose durant ces 2 ans. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas retenu, c'est entre vous et Dieu, hein, j'ai envie de dire. Et à partir de cette année, on aborde une nouvelle thématique, une grosse thématique qui s'appelle Au-delà du visible. Au-delà du visible qui va comprendre une série où on va explorer quatre réalités spirituelles qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont bien réelles. Le premier, c'est comment Dieu nous parle. Deuxième, on va essayer d'explorer ensemble le mystère de la Trinité, le retour de Jésus, et puis enfin l'éternité. Des sujets dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont importants. Mais ce matin, avant de commencer, je ne veux pas qu'on aborde ces sujets-là uniquement par notre seule intelligence, parce que c'est possible, hein. Je parle français, vous pouvez me comprendre, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre quelque chose. Pas avec notre tête, mais avec notre cœur. Et sans rien vivre de concret, quelque part, nous passons à côté. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à vivre du concret. Du coup, comment vivre? Je vous pose la question. Comment vivre ce que nous entendons, ce que nous lisons dans la Bible, ce que nous entendons de comment Dieu peut nous parler? Comment nous pouvons le vivre? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut être rempli, mes frères et sœurs, de celui qui lui-même est invisible. Le Saint-Esprit, La Bible va dire, c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et c'est par cet Esprit que Dieu nous révèle ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Et avant du coup de parler de tout cela, il faut d'abord parler du coup d'un sujet primordial, peut-être même le plus important, sinon bah, moi je vais parler pour rien. Alors pas pour rien, parce que moi je suis béni par ce que je fais. Donc je suis le premier béni, mais ce serait quand même dommage de passer à côté ou de dire « Ah, c'est des belles prédications, c'est... mais quelque part, qu'est-ce que ça attend, moi ?» Et Dieu nous appelle à être remplis de l'Esprit. C'est le titre de mon message ce matin, « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est la base, mes frères et sœurs. Et je vous propose du coup de lire dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. » Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Dieu, nous allons parler de toi et surtout, mon Dieu, de ton Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, ce matin même. Avant, mon Dieu, cette prédication, que tu viennes déjà descendre dans nos cœurs et que tu puisses faire ton effet. Ouvre les oreilles de nos cœurs, mon Dieu, que nous puissions recevoir cette parole comme un enfant qui écoute, de manière simple, mon Dieu, et radicale. Merci, Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, je vous pose la question, parce que sinon, si on continue à parler, on va... de quoi on parle ? Qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit ? Il y a pas, alors j'ai pris ce texte-là, mais Paul il en parle à multiples reprises, hein, Thessaloniciens, soyez remplis de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Oui ? Ok. Autre chose ? Oui, Christophe ? Oui, pas tout à fait. Parce qu'on peut être rempli de sa parole et pas être rempli de l'esprit. Hein. C'est les pharisiens. Ouais. Et concrètement, comment, du coup, ça... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Alors tout ça, on peut se dire, purée, c'est très abstrait, mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Déjà, ce qui est sûr, frères et sœurs, c'est bien de faire la distinction, parce qu'il y a beaucoup de confusion, en fait, sur ce sujet-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est si tu as donné ta vie à Jésus, tu as déjà le Saint-Esprit. Tu l'as reçu une bonne fois pour toutes, Dieu a mis un tampon sur ta vie. C'est le jour de ta conversion. Et le Saint-Esprit, déjà, il vient même pas le jour de ta conversion, il vient avant même, c'est lui qui travaille dans le cœur. Et du coup, tu es appelé enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ça dont il est question ce matin. Ce n'est pas ça qui est en jeu, parce que Paul s'adresse à des chrétiens. Chrétiens d'Éphèse, qui ont déjà l'Esprit. Et il leur ordonne. Hein. Il leur ordonne, c'est pas, il vous rappelle, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Du coup, il y a déjà une chose essentielle qu'il faut avoir en tête. Avoir l'Esprit. Et être rempli de l'Esprit, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir l'Esprit parce que tu connais Dieu, sans être rempli de l'Esprit. Ça va ? Du coup, on commence par mon premier point. On va suivre le texte. C'est le verset 15 à 17. « Vivre en sage et non en fou. » Paul va commencer déjà par une mise en garde. Verset 15. « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. » Le mot grec qui est traduit ici par fou désigne quelqu'un qui vit sans réfléchir. au petit bonheur, la chance, quelqu'un qui laisse un peu les circonstances de la vie, les habitudes ou les autres décider de sa vie à sa place. C'est ce que la Bible appelle ici le fou. Et si je vous demandais, là maintenant, est-ce que tu es quelqu'un de sage ? La plupart d'entre nous, en général, on dirait oui. Nous avons un bon travail, une bonne réputation, on gère plutôt bien notre vie. Mais la sagesse ici dont Paul parle n'a rien à voir avec la réussite sociale, le niveau d'études ou le sens pratique. Le verset 17 ici va définir précisément « être sage, c'est comprendre quelle est la volonté de Dieu ». Et ça c'est fort. Être sage, je répète, c'est comprendre quelle est la volonté du Seigneur. On peut être extrêmement intelligent, extrêmement bien organisé et pourtant aux yeux de Dieu, être un parfait fou. Passer complètement à côté parce que nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Ou si on la cherche, c'est quand on a fait tout ce qu'on pouvait et on est bloqué. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Et là, on vient vers le Seigneur demander qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est le fou. C'est celui qui, du coup, ne cherche pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi ? Pourquoi cette urgence ? Paul va donner deux raisons. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le mot employé pour racheter, c'était un terme ici commercial. On rachète quelque chose qui risque de nous échapper, qui a de la valeur, et qui ne reviendra pas. Et le temps, vous le savez, hein, le temps il passe, et il ne se rattrape pas le temps. Et ensuite, ces jours sont mauvais. Non pas parce que le monde actuel serait pire qu'avant, mais parce que nous vivons dans un monde marqué par le mal, marqué par le péché, et sous la pression constante de tous ceux qui cherchent quelque part à nous détourner de Dieu. C'est l'exemple des 10 vierges, dans Matthieu 25, vous connaissez cette histoire. 10 jeunes filles qui attendent l'époux, avec 10 lampes allumées, et 10 apparences identiques. Mais il y a 5 seulement qui avaient prévu de l'huile en réserve pour tenir dans la durée, et les 5 autres sont qualifiées de folles. C'est le même terme, hein. Folles, comme Paul ici emploie le terme fou, parce qu'elles n'ont pas veillé. Elles n'ont pas cherché ici qu'est-ce que Dieu veut pour elles. Cette semaine, mes frères et sœurs, peut-être se poser la question, est-ce que je suis assez sensible à Dieu pour lui demander sa volonté ? Sur tout ce que je vis. Seigneur, est-ce que je cherche vraiment ta volonté ? Sans rester passif, Dieu nous appelle à l'action. Mais sans non plus faire notre vie comme si Dieu n'existait pas. Et je tire, comme un peu, vous savez, dans les bus, dans les trains, là, il y a une manette, une manette d'urgence. Et du coup, Dieu, c'est pas une manière d'urgence. C'est le moteur qui fait conduire notre vie. Et on doit lui demander constamment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Est-ce que le chemin que j'emprunte, est-ce que les décisions que je prends, est-ce que ce que je pense, c'est ce que tu veux aujourd'hui ? Le deuxième point, ça va être le plus important, et on va développer, être rempli de l'esprit et pas d'autre chose. C'est le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Frères et sœurs, ce matin, chacun de nous, on est chacun rempli de quelque chose. L'être humain, il n'est pas vide. Il est rempli toujours de quelque chose. Ça peut être de travail, d'écran, d'inquiétude, d'ambition, de comparaison avec les autres, de divertissement. Nous sommes tous influencé par quelque chose. Et notre cœur va toujours chercher à se remplir ici de quelque chose. La vraie question, du coup, c'est pas est-ce que je suis rempli ? On est tous remplis de quelque chose, mais de quoi je suis rempli ? Et Paul va comparer ici l'Esprit Saint avec l'ivresse de l'alcool, l'ivresse du vin. Quelque part, il va parler un peu de contrôle, d'influence. Quand une personne est ivre, le vin prend le contrôle de sa démarche, de ses paroles, de ses émotions, de son audace. Et l'alcool va modifier sa façon d'agir. Et quelque part, Paul, ici, il dit ne laissez pas les substances. Alors là, il prend l'exemple de l'alcool, mais ça peut être les passions humaines. La recherche du confort, la course à la richesse, ou le stress, ou l'inquiétude. Contrôler nos vies. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. On va s'attarder un petit peu sur cette phrase. Soyez continuellement remplis de l'esprit. Dans certaines versions, c'est soyez remplis de l'esprit. ou laissez-vous constamment remplir par l'esprit. J'ai fait la traduction du grec, puisque la traduction exacte en français, c'est celle-là. Soyez continuellement en train de vous laisser quelque part remplir par l'esprit. Il y a trois choses ici dans ce texte, dans ce verset. C'est que ce n'est pas une option. C'est premier terme, soyez. Il y a un impératif de Paul. Et ce n'est pas une option juste pour certains chrétiens super spirituels, c'est un ordre pour chaque enfant de Dieu. Être rempli de l'esprit. Deuxième point, c'est laissez-vous. Et là, c'est la chose peut-être la plus intéressante, et on pourrait dire c'est en contradiction peut-être avec ce que Paul demande en premier, en impératif, c'est qu'on ne peut pas produire nous-mêmes la plénitude de l'esprit. On ne peut pas. C'est Dieu qui agit, mais quelque part, Paul nous appelle à ne pas résister à l'action de l'esprit, à nous soumettre à lui et à vivre de manière cohérente avec son œuvre en nous. Nous sommes que des réceptacles que Dieu, du coup, remplit. Et puis, continuellement, pas rempli une seule fois, mais à chaque jour. La traduction exacte, c'est ça, soyez continuellement en train de vous laisser remplir. Et on peut très bien posséder l'esprit et vivre au quotidien comme s'il n'était pas là. C'est un peu... Bon, chez vous, normalement, on est en France, hein. On a tous l'eau courante chez nous. Pourtant, si vous le voulez, vous pouvez mourir de soif ou ne pas vous laver. Ce ne sera pas la faute à qu'il n'y a pas d'eau, c'est que vous n'ouvrez pas le robinet. Normalement, chez vous, l'eau, elle est fermée. Même s'il y a l'eau qui est là, il y a les robinets qui sont là. Et on peut dire, oui, j'ai l'eau chez moi, et ne jamais utiliser l'eau, ne jamais voir la couleur de l'eau. Ici, Dieu nous appelle, et Paul nous rappelle, laissez le Saint-Esprit nous remplir. Je vous pose cette question, pourquoi nous avons besoin de nous laisser remplir continuellement? Pourquoi Paul ne nous laisse pas ici une option sur ce sujet-là? Ouais. Bon, c'est bien parce que. Alors, Fred a dit parce que nous sommes pécheurs et que le péché est en nous. Bon, on est des experts, hein. Du coup, on a la réponse facile à cette question. Et c'est effectivement ça. Parce que la seule façon de vaincre notre chair, notre moi, et de remporter quelque part notre combat quotidien contre le péché, et il peut s'agir de. Non, ben, les péchés sont larges, hein. C'est pas juste mentir, voler, adultère. Hein. Ça, c'est les péchés qu'on aime bien parler. Il y a d'autres péchés beaucoup plus subtils. Ça peut être les inquiétudes financières. L'amertume, la rancœur, addiction en tout genre, pornographie, écran, cigarette, je peux faire toute la liste. Hein. Nous sommes des experts. Nous savons, nous connaissons notre chair. Et c'est pour ça que Paul va dire aussi en Galates, hein, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par nos propres forces, mes frères et sœurs, peut-être que vous avez dû remarquer, hein, quand vous voulez combattre vos propres péchés, vos propres désirs mauvais, vous pouvez marcher un temps, ça peut marcher un temps, mais ça ne tient pas. Et la clé pour vaincre, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que notre volonté, elle est faible, elle finit toujours par céder. Mais sous la puissance de l'Esprit, les chaînes perdent leur emprise. C'est le miracle de Dieu. Il y a un évangéliste, l'évangéliste Moody, je ne sais pas si vous connaissez, qui va dire ceci par rapport à ce texte. Hein. On me demande pourquoi j'insiste sur la nécessité d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Ma réponse est simple. C'est parce que je fuis constamment. Il va expliquer que du coup, nous sommes comme des tonneaux en bois, que nous sommes bien assemblés, mais que le bois sèche. Le bois sèche avec le temps et qu'il laisse passer des micro-fissures. Et si le tonneau, du coup, n'est pas constamment réapprovisionné à la source, il finit par se vider. C'est le principe des tonneaux. Et les épreuves de la vie, les déceptions, les offenses font fuir notre paix. Et notre patience, et c'est pour cela que nous avons besoin d'une connexion quotidienne à la source. Que le Saint-Esprit, quelque part, nous renouvelle à chaque jour qui passe. L'exemple parfait, c'est Jésus. Il est le Fils de Dieu, et pourtant, comment il a accompli son ministère sur terre? On le voit dans les évangiles, Luc va nous dire, hein, qu'il a agi rempli du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit. Si Jésus lui-même, qui est Dieu, hein, a choisi de marcher sur cette terre en dépendant entièrement du Saint-Esprit, comment nous pouvons nous imaginer réussir notre vie chrétienne par nos propres forces? C'est impossible. Le même Saint-Esprit qui un jour a touché notre cœur, c'est le même agent qui veut continuer à agir en nous pour que nous ressemblions au Christ. Alors concrètement, on va essayer de parler un petit peu concrètement, comment on se laisse remplir par l'Esprit au quotidien? Il n'y a pas de formule magique, hein, mais il y a un rythme de vie qui s'exprime ici, je ne vais rien inventer, hein, c'est la théologie chrétienne qui le dit, en quatre respirations qui permettent. Si on fait ça, ça ne veut pas dire forcément qu'on est automatiquement rempli de l'Esprit. Hein. Encore une fois, c'est Dieu qui nous remplit. Mais qui permettent, en tout cas, l'action de l'Esprit de nous remplir, d'avoir un cœur disposé. J'ai mis ces quatre points. Se confesser. Confesser nos péchés à Dieu. Depuis combien de temps tu n'as pas confessé tes péchés à Dieu? Tu n'as pas dit, Seigneur, pardon pour ça. Certes, on est sauvé, certes, on est racheté, mais confesser nos péchés, c'est faire preuve d'humilité, de reconnaître que là, il y a un souci. C'est dire, Seigneur, je vide mon cœur de ma colère, peu importe du péché dont on est question, de mon orgueil, de mes peurs, et je te demande pardon. Dieu cherche des cœurs humbles. C'est la première étape. Et puis après, il y a demandé. Jésus a promis que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez avec foi, Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi, remplis-moi continuellement de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, et ce sera ma prière encore pour demain. Quelque part, aujourd'hui, je puisse avoir ton regard sur ce que je vais vivre avec les autres, avec mes propres combats. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ensuite, il y a la parole. L'élément peut-être un des éléments importants, aussi important que les autres, mais la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu, hein, pas juste un livre comme ça. Littéralement, Dieu qui parle. Comment nous pouvons connaître ce que Dieu veut si nous n'ouvrons pas nos Bibles? Un cœur rempli de l'Esprit est un cœur qui est nourri par la parole, qui a soif de la parole. Le même Esprit qui a envoyé cette parole devant nous, c'est le même qui nous donne cette même soif. Et puis il y a à obéir. Peut-être un des points de conclusion, mais peut-être le plus important. Quand l'Esprit te pousse quelque part, mes frères, ma sœur, ce matin, peut-être que l'Esprit te pousse à pardonner, à encourager ou à servir. N'attends pas juste sur ta chaise, passe à l'acte. Le Saint-Esprit parle une fois, deux fois, et puis après un moment, il se tait. Si nous ne voulons pas faire ce qu'il veut, il nous laisse faire. Et là, nous taisons la voix de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas attendre une décharge électrique ou qu'il y ait une épreuve qui vienne pour quelque part on se mette en mouvement. C'est s'aligner jour après jour sur le souffle de Dieu. Avec l'aide de la prière, de la confession et de la parole. Ça va? Dernier point, c'est les effets visibles d'une vie remplie de l'Esprit. Je vous pose la question, comment savoir concrètement si nous sommes remplis de l'Esprit? Oui. Ouais, alors c'est pas tout à fait ça. Ça veut dire que là, on part d'une autre expérience, du coup, qui est possible, du coup, d'ailleurs, c'est en lien soit avec la conversion, soit après. Mais ici, quand on parle de vie remplie de l'Esprit, c'est pas tout à fait ça. Ça veut dire qu'on peut parler en langue, hein, et ne pas être rempli de l'Esprit. Des éléments concrets. Il y a un élément concret qui montre que nous sommes remplis de l'Esprit. Alors le texte, il en parle. Hein. Mais aussi, oui, Jenna. Alors il y a le fruit de l'Esprit, mais on va voir que sur le texte, là, c'est pas ça. La joie intérieure. Alors, c'est bien ce que tu as dit, Jenna. On va revenir après dessus, hein, sur le fruit de l'esprit, parce qu'il y a un lien. Hein. Mais en fait, on va voir, c'est pour ça que c'est bien de clarifier. J'ai fait un schéma à la fin pour un peu expliciter tout ça. Mais ici, le texte est très clair. Les effets immédiats, pas besoin d'attendre, hein, de quelqu'un qui est rempli de l'esprit, c'est déjà une joie partagée et un cœur qui loue. Constamment. C'est le verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, chantant de tout votre cœur au Seigneur. » Un cœur rempli de l'Esprit n'est pas un cœur qui murmure. Ce n'est pas un cœur qui critique, c'est un cœur qui célèbre constamment le Christ. Peu importe ce qu'il vit, Il a les yeux fixés sur son sauveur. Et le Saint-Esprit le pousse à cela. Un exemple, c'est Paul et Silas en prison. Je ne sais pas si vous voyez ce passage, ils ont évangélisé et ils viennent d'être battus avec des verges publiquement. Ça fait mal, hein? Ils sont jetés dans un cachot, les pieds bloqués dans des ceps de bois. Et que dit le texte? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Un chant en pleine nuit, dans la douleur, parce qu'ils ont mal, hein, sans doute, dans l'humiliation, mais voilà à quoi ressemble, dans sa forme quelque part la plus radicale, le cœur rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pas un truc abstrait là, hein. C'est du concret. Ils louent Dieu constamment. La souffrance n'a pas empêché leur louange à Dieu. Le deuxième point, c'est la suite du texte, verset 20, une reconnaissance mutuelle. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. L'Esprit va briser la dureté, la dureté du cœur et la plainte pour faire jaillir la gratitude même dans l'épreuve. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut remercier Dieu pour la maladie, pour le deuil ou pour l'injustice? Allez, répondez-moi franchement. Non, Paul ne nous demande pas d'appeler le mal bien. Le mal reste le mal. Mais même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous savons qu'il reste souverain, qu'il est Dieu, qu'il reste Père et qu'en Christ, quelque part, rien ne peut nous séparer de son amour. La reconnaissance continuelle. Et puis le dernier point, c'est un cœur qui se soumet. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La preuve ultime peut-être de la présence de l'Esprit, ce n'est pas de s'imposer aux autres, c'est de servir les autres. C'est souvent le cas hein, chez nous, là, donc je vais le dire, de vouloir que l'Église soit comme je veux. Il y a beaucoup d'orgueil dans cela. Se soumettre les uns aux autres, c'est mettre son ego, son temps, son confort au service du corps du Christ. Et dans cette mentalité-là, du coup, je me mettrai au service aussi de ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu. La preuve ultime qu'un chrétien est rempli de l'Esprit, ce n'est pas des grands discours, c'est qu'il prend un tablier pour servir. Si dans notre Église, nous voulons tous être servis sans jamais nous demander comment servir, alors il y a un problème spirituel. Spirituellement, il y a quelque chose qui va. Car l'Esprit nous rend progressivement semblables à Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le parfait exemple, c'est avant la croix. Lors de la scène, Jésus va se lever de table, il va prendre un linge, se mettre à genoux et laver les pieds sales de ses disciples. À l'époque, ils marchaient pieds nus ou en sandales, hein, vous imaginez un petit peu. Et Dieu, le créateur de toutes choses, hein, va laver leurs pieds. Il y a un verset qui est intéressant sur ce passage-là que je trouve très fort. Il y a un détail. Hein. Il fait cela en sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire que Jésus fait cela en pleine conscience de sa toute-puissance. Ce n'est pas un homme faible qui sait qu'il va mourir, qui se soumet par manque de choix. Non, c'est le roi de gloire, là, qui est conscient de qui il est. Et qui choisit librement de se mettre à genoux et de servir les apôtres. C'est fort, non? Et la soumission mutuelle, mes frères et sœurs, c'est ça, dont Paul parle, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la marque d'une force placée sous le contrôle de l'Esprit. À l'image du Christ lui-même. Si notre Maître, notre Sauveur, du coup, nous a servi, mes frères et sœurs, nous qui sommes remplis de l'Esprit, nous devons avoir du coup cet élan de service. Il y a une chose que moi, ça fait 10 ans que je suis pasteur, une chose que je vois, tous ceux qui donnent leur vie à Dieu, c'est pas moi qui leur dis de servir, ils ont l'envie eux-mêmes de servir. Ils ont la joie, malgré les épreuves. Il n'y a pas un mot qui dépasse de l'autre. Bon, c'est souvent après que ça se complique. Parce que du coup, ils ne sont pas remplis continuellement. Ils oublient continuellement. Et du coup, des fois, on arrive un peu comme nous. Mais quelque part, Dieu nous appelle à garder ce cœur du premier jour, continuellement rempli de l'Esprit. Ce matin, l'Esprit Saint veut transformer tes murmures en louanges. Paul ne dit pas ici « celui qui est rempli de l'Esprit loue uniquement le dimanche matin ». Est-ce que, mes frères et sœurs, je sais compter chaque jour les bienfaits de Dieu et le remercier ? On a chanté ce chant ce matin, Alice l'a pris, ça n'était pas mon sujet. Compter les bienfaits. Compter les bienfaits de Dieu, ça permet de prendre de la hauteur et de remercier Dieu constamment. Le Saint-Esprit veut aussi ce matin remplacer ton amertume par de la gratitude, pas par des paroles de trop, de la médisance ou des mauvaises paroles. Et puis il y a l'attitude de service. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ce matin, veut te rendre au service des autres, avoir un cœur de serviteur, pas être un consommateur de l'Église qui profite des autres, pas vouloir que l'Église me ressemble, mais être au service des autres. À l'extérieur, mais cela commence dans l'Église. Être au service des autres. Pour conclure, revenons à notre bateau à voile, mais peut-être j'ai mis un schéma, pour que ce soit un petit peu plus clair, ça va peut-être répondre du coup à ta remarque, Géna. Quand du coup nous donnons notre vie à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur, il y a la conversion. Le Saint-Esprit, nous l'avons une bonne fois pour toutes. C'est acquis, le Saint-Esprit ne disparaît pas dans nos vies. Nous l'avons une bonne fois pour toutes. Je veux le marteler ce matin. Le salut, le Saint-Esprit, ça ne se perd pas. Ce n'est pas comme on perd ses clés de voiture. Non, c'est pour toujours. Et puis après, il y a chaque jour. Chaque jour, du coup, Dieu nous appelle à nous laisser remplir par le Saint-Esprit de manière continuelle. Et ça, ça va produire des résultats. Deux résultats. La manifestation immédiate, c'est ce qu'on vient de lire, Éphésiens 5, la manifestation immédiate de celui qui est rempli de l'Esprit, il n'y a pas besoin d'attendre. Il va produire du coup trois qualités, la louange constante, la gratitude et la soumission les uns aux autres. Et puis il y a le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, du coup, Paul va en parler aussi, et un fruit, du coup, qui est sur la durée. Ce que nous appelons, du coup, le caractère du Christ. Et ça, on va mettre toute notre vie à gagner ce caractère du Christ. Et les deux choses, ils s'entretiennent. Celui qui est rempli de l'Esprit, il va immédiatement, normalement, louer, être dans le remerciement et dans la soumission, et ça va nourrir le caractère du Christ. Ça va faire grandir le caractère du Christ et inversement. Celui qui grandit du coup dans la sanctification à chaque jour qui passe, rempli de l'Esprit, va pouvoir louer Dieu, remercier Dieu, servir les autres. Ça va ? Que le Seigneur nous aide. Pour conclure du coup, je vais revenir un peu à notre bateau à voile. Immobile, sans vent. À l'époque, qu'est-ce que du coup les équipages faisaient ? Certains essayaient de s'en sortir par leur propre force. Ils sortaient les rames et ils ramaient pendant des heures. Sauf qu'il faut savoir que cet endroit de l'océan Atlantique, il n'est pas petit, il est assez large. Et du coup, en plein soleil, ils avançaient quelquefois de quelques mètres, des fois de quelques kilomètres, avant de s'épuiser. Parce qu'un bateau, c'est lourd. Et d'autres attendaient, immobiles, résignés, sans rien faire. Mais la seule vraie solution, c'est quoi ? Ouais, pour le bateau en particulier, c'est que part, c'est que le vent revienne. C'est que le vent souffle. Et là, il n'y a aucun effort humain qui peut produire cela. C'est uniquement l'arrivée du vent. Et quand il revenait, du coup, il suffisait juste de hisser la voile pour que tout le navire d'un coup se remette à avancer. Ta vie chrétienne ce matin, elle n'est pas différente. Tu peux ramer. Multiplier les efforts, la discipline, la bonne volonté et n'avancer que de quelques centimètres et être épuisé. Et ne commence pas du coup cette rentrée-là sur tes réserves, avec un cœur sec, fatigué. La question ce matin, ce n'est pas quelle sera la taille de la tempête de cette année que je vais vivre, l'épreuve qui sans doute peut-être sera là. La seule question qui compte, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que je me laisse continuellement remplir par l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui un jour m'a fait connaître le Christ ? Il ne veut pas juste rester comme un robinet qui est fermé. il veut ouvrir les vannes. Il veut du coup ici nous remplir continuellement pour produire concrètement des aspects visibles, louange, gratitude, soumission, caractère du Christ. Des choses peut-être, mes frères et sœurs, que nous avons perdues avec le temps, et peut-être que ce matin tu es un peu dans le poteau noir, cet endroit où il n'y a plus de vent. Le Seigneur ce matin est capable de te remplir de nouveau. Ce qu'il te demande, c'est de l'humilité. Un état d'esprit disposé à cela. Pas, Seigneur, je t'ouvre une pièce, le reste je le garde pour moi. Non, un cœur entier. Sans dépendre de l'esprit, nous retombons facilement, mes frères et sœurs, dans nos vieux réflexes. L'autonomie, l'orgueil, la plainte, la peur, le désir de vivre selon notre propre volonté. Mais remplis de l'esprit, nous apprenons à vivre autrement, avec sagesse, reconnaissance, humilité et service. De quoi es-tu rempli ce matin ? Alors je te propose, là où tu es assis, peut-être de prendre un instant en silence, pendant que je vais prier, et peut-être si tu te dis ce matin, ça va pas. Ce matin je connais Dieu, mais je suis pas rempli de l'esprit. En tout cas, j'ai perdu le fait d'être rempli de l'esprit, j'ai peut-être fermé le robinet depuis trop longtemps, et le robinet il est rouillé, j'arrive plus à l'ouvrir. Eh bien tant mieux, c'est pas toi de l'ouvrir, c'est Dieu qui l'ouvre. Ce que Dieu te demande, c'est un cœur disposé. D'être conscient de vouloir être rempli de l'esprit. Parce que mes frères et sœurs, si Paul demande aux Éphésiens d'être remplis de l'esprit, c'est qu'il y en a certains qui ne le voulaient pas. Parce que être rempli de l'esprit, ça nous dérange. Ça dérange notre propre chair, notre propre volonté. Et pourtant, c'est l'unique raison qui fait que nous pouvons ressembler au Christ. Cela permettra aussi, du coup, que vous puissiez être sensible et surtout que cette parole, la parole de Dieu, qui peut être notre Bible, mais aussi ce que Dieu peut utiliser comme personne, puisse du coup être aussi des éléments palpables de comment du coup je peux transformer, changer mon caractère. Et ne pas passer à côté, parce que j'ai un cœur dur et que l'esprit du coup, je dis avoir l'esprit, mais quelque part je n'ai rien. Seigneur, quelque part ce matin, fais-moi grâce. Remplis-moi à nouveau de ton esprit, pas pour la première fois peut-être, mais une fois encore et encore demain. Prions. Merci Seigneur Jésus parce que tu es celui qui n'a pas terminé ton œuvre en nous. Toi qui nous as appelés un jour, ce n'est pas nous qui t'avons cherché. C'est toi qui es venu vers nous, qui a répandu ton esprit, qui a su travailler dans nos cœurs pour que nous t'appartenions. Mais ce matin, mon Dieu, tu ne veux pas t'arrêter à cela. Tu veux continuer cette œuvre. Tu es cet agent, mon Dieu, important dans nos vies qui nous permet de vivre ce que toi tu veux. Aide-nous, mon Dieu, à pouvoir abandonner notre propre chair. Et ce matin, je te prie, peut-être pour mes frères et sœurs, pour nous-mêmes, mon Dieu, peut-être tous ensemble, qui peut-être, mon Dieu, nous ne sommes pas assez remplis de toi. Viens nous remplir ce matin, Seigneur, de nous. Saint-Esprit, descend dans les rangs. Viens briser les robinets rouillés et viens nous remplir à nouveau. Que nous puissions avoir ton regard. Le regard du Christ. Pour que nous puissions, Jésus, dès l'instant où tu es là, être dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans la louange. Un esprit simple, dans le cœur d'enfant. Pour que nous puissions, mon Dieu, ne pas rester ce bateau comme ce bateau, tout beau, mais qui n'avance pas. Mais nous voulons, mon Dieu, que tu souffles dans nos voiles. Souffle, Saint-Esprit, sur nos vies. Ranime quelque chose dans cette rentrée-là. Que nous puissions ne pas nous reposer sur nos propres intelligences, nos propres conforts, mais te faire pleinement, Jésus, confiance. Merci Saint-Esprit, parce que tu connais tout de nous, et c'est toi qui viens nous remplir pour quelque part que nous puissions nous positionner face à nous-mêmes, face à nos péchés, face à notre propre chair. Tu es ce remède qui nous permet encore de remplir ce mandat, ressembler au Christ. Merci Jésus. Amen. Voilà, on va prendre un chant, on va reprendre un chant. Et puis je vous invite ensuite peut-être à prier. À prier, à demander l'Esprit Saint ce matin, de manière simple. Saint-Esprit, remplis-moi.
cet air que je respire. Cet air que je respire.
Voilà, si quelqu'un veut venir, peut-être faire une démarche, on peut prier. Démarche d'humilité. Et peut-être on peut prier, peut-être avec Alice, que le Seigneur du coup remplisse nos cœurs. Voilà, sentez-vous libres, mes frères et sœurs, nous sommes tous concernés ce matin.
Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi je suis perdu sans toi.